Nous avions, la dernière fois, si vous vous rappelez bien, nous avions essayé de comprendre le critère de vérité d'une conclusion d'une proposition modale. C'est-à-dire, d'une proposition modale, conclusion d'un raisonnement. D'un raisonnement a posteriori. D'un raisonnement qui implique donc une constatation d'un fait, qui implique l'application d'un principe et qui nous permet de conclure. Alors, nous étions restés devant le problème, j'espère que vous avez réfléchi là-dessus, quel est le critère de vérité de la conclusion modale? Alors, je demande s'il y en a qui peuvent répondre. Tout le monde, même ceux qui ont déjà pas mal d'années philosophiques. Quel est le critère de la proposition, de la proposition modale? Il est nécessaire qu'il existe. Il est nécessaire qu'il existe un être premier, un être absolu que nous avons Dieu. Il est nécessaire qu'il existe un intellect poietikos, un intellect agent. Quel est le critère de vérité de cette conclusion-là? Il faut d'abord comprendre le contenu de cette proposition. Le contenu de cette proposition ne porte pas sur la manière d'exister de cet être, mais sur la nécessité de son existence. C'est ça qu'il faut comprendre. Sur la nécessité de son existence. Donc il y a deux. On va faire tout simplement une petite analyse. Je crois que c'est intéressant. Il est nécessaire qu'il existe un être premier que nous appelons Dieu. Il est nécessaire qu'il existe un intellect agent. Donc, cette proposition porte sur la nécessité de l'essai, de l'exister. Mais c'est de quelque chose, hein, à l'épouille. À l'écoute, il sert qu'il existe quelque chose, à l'écoute, quelque chose, quelqu'un, un certain être. Mais on ne dit pas la modalité de cet être. On dit simplement qu'il existe un être premier, si vous voulez, un aliquide. Mais c'est la nécessité de l'existence qui est premièrement mise en lumière. Il est nécessaire qu'il existe un être premier. Donc, le critère de vérité de l'essai ne peut être que l'essai. Ce n'est pas l'essence, la nature qui me permet d'avoir un critère d'exister. Parce qu'il n'y aurait qu'une seule essence, qu'une seule nature qui oblige d'exister, c'est l'être premier. Justement, ce que je conclue, donc les répétitions de principe. Si ma conclusion est critère de vérité l'être premier est critère de vérité de ma conclusion, il y a répétition de principe, ça c'est sûr. Donc, tout existe. Aucune nature, aucune existence ne peut rendre raison de l'essai. Seul un jugement d'existence peut rendre raison de l'essai. Ça, c'est très important à comprendre ça. Je ne peux pas déduire l'essai à partir de l'essence. C'est la grande critique de Kant qui reste vraie. Qui reste parfaitement vraie. Il n'y a pas Kant qui l'a dit, saint Thomas l'avait dit avant Kant. Et là, Kant et saint Thomas sont d'accord. Donc, si Kant et saint Thomas sont d'accord sur un point, c'est comme quand saint Thomas est d'accord avec Teilhard, il y a des chances que ce soit vrai. Non, parce que ce sont deux esprits qui sont quand même très différents. C'est intéressant, du reste, de faire ces parallélismes en voyant il y a des points sur lesquels ils sont d'accord. Bien, c'est celui-là. Donc, le critère de vérité de il est nécessaire qu'il existe ne peut être qu'un jugement d'existence. Il peut être une mesure, seule mesure de l'essai. Ça, impossible autrement. La nécessité, elle n'est pas dans le jugement d'existence au sens absolu, puisque le jugement d'existence porte sur un être contingent. Ça, il faut bien le reconnaître. Tout ce que j'expérimente implique une contingence. L'exister comme tel est acte. Il implique bien la possibilité d'être nécessaire, mais il n'implique pas la manière d'exister nécessaire. Autrement, tout être, du fait même qu'il existe, serait nécessaire. Or, il y a quelque chose qui existe, qui implique un certain acte, mais qui n'est pas nécessaire dans sa manière d'exister. Ça, vous pouvez tous comprendre ça. Ça fait partie, si vous voulez, de ce que représente le jugement d'existence. Il porte sur une réalité qui existe, mais cette réalité qui existe, existe dans la contingence. Donc le nécessaire lié à l'exister ne provient pas de l'expérience. Il reste dépassant. Donc la nécessité ne peut provenir, elle, que d'autre chose. Donc d'un principe. C'est les principes propres qui permettent de comprendre la nécessité. Mais dans les principes propres, je saisis une nécessité qui n'est pas une nécessité d'existence, qui est une nécessité de nature. Quand vous dites, par exemple, je prends le principe de causalité, principe de causalité finale, tout ce qui est en puissance dépend de l'acte. Tout ce qui est en puissance, vous voyez, je ne suis pas au niveau de tel exister. Tout ce qui est en puissance, je suis en présence d'une certaine nature, une manière d'exister, par rapport à une autre manière d'exister. Donc, le principe propre implique une nécessité, non pas au niveau de l'essai, mais au niveau d'un antécédent et d'un conséquent, de manière d'exister. Vous êtes bien d'accord avec ça? C'est dans la conclusion où je vois le lien entre l'essai et la nécessité qui se fait. Et c'est ça le caractère propre de la conclusion. La conclusion va donc dépasser sous un certain aspect, et c'est ça la difficulté, les deux prémices. J'espère que vous comprenez ça. Quand on est en face d'une conclusion, d'une démonstration a priori, la conclusion est entièrement relative à ses principes, aux prémices. Et donc c'est facile de dire, c'est très facile de dire, la mesure de la vérité d'une conclusion, d'une démonstration a priori, ce sont les prémices. Puisque la conclusion est totalement relative aux prémices. La conclusion dépend entièrement des prémices. Quand il s'agit d'une conclusion, d'une démonstration a posteriori, la conclusion dépasse les prémices. Vous n'avez pas à réfléchir un instant. Hein. Quand vous dites qu'il est nécessaire qu'il existe un être premier, vous êtes en face d'une affirmation qui dépasse tout ce que vous pouvez constater et tout ce que vous pouvez comprendre. Donc, la conclusion ne peut pas être mesurée par les prémices. Donc, je suis devant une impasse. Hein. J'espère que vous voyez ça, parce que ça c'est important à comprendre. De comprendre que quand je suis en phase d'une conclusion d'une démonstration a posteriori, j'ai de fait ce fait que la conclusion est plus que chacune des propositions qui sont prémices. Je vous donne ici exprès, que vous compreniez, je l'analyse. Il est nécessaire qu'il existe un être premier. Bon, l'exister peut être mesuré par un jugement d'existence. D'accord. Le nécessaire peut être donné dans un principe propre. D'accord. Mais vous voyez bien que normalement, selon mon expérience, j'ai contact avec un essai contingent et la nécessité est donnée dans un principe et non pas dans l'exister. Je n'ai absolument pas l'expérience d'une existence nécessaire. Ça brûle, ça. Au voltage. Vous seriez électrocuté. C'est dangereux. faut mettre des têtes de mort pour montrer que c'est très dangereux. D'avoir l'expérience de la nécessité d'en exister. Enfin, possible. Personne d'entre nous n'a l'expérience de l'exister nécessaire. Personne d'entre nous. Donc si personne d'entre nous, si notre intelligence est incapable, c'est très important de comprendre ça, parce que ça fait comprendre comment on refuse les démonstrations a posteriori. C'est donc très important de comprendre le critère de vérité de cette démonstration a posteriori. C'est très important parce que c'est par là que vous faites sauter le positivisme qui est encore en vous. On a tous un reste de positivisme. Tous. Un vieux reste. C'est l'atavisme des grands-pères, trouvez-vous. Ils étaient tous positivistes, ils étaient intelligents à cette époque-là. Aujourd'hui, il y en a encore. Ils continuent. Mais au fond, si on veut sortir du positivisme, il faut comprendre qu'une dans la démonstration a posteriori, on peut affirmer quelque chose qui va plus loin que les prémices. Ça, c'est imaginaire. On ne peut pas affirmer quelque chose qui va plus loin que les prémices. Eh bien, oui. Alors, où est le critère de vérité? C'est pas commode, hein? C'est pas commode, parce que le critère de vérité est toujours quelque chose qui est antérieur, c'est une mesure. Mais je voudrais que vous le découvriez, ça, parce que c'est ça qui me ferait comprendre que vous avez dépassé le positivisme. Tant que vous n'arrivez pas à le dire, vous n'avez pas dépassé le positivisme. Vous restez encore dans le fond, de vous-même des positivistes. Pas encore découvert, absolument, vous n'avez pas encore dépassé complètement. Alors, je reprends, pour que vous puissiez saisir la petite éclair qui doit se faire tout d'un coup comprendre, pour qu'on saisisse la mesure d'une conclusion, d'une démonstration a posteriori. Alors, je prends la démonstration a posteriori la plus forte qui soit, celle qui est aussi le plus battue en brèche. C'est la grande montée vers la découverte, vers le dévoilement de l'être premier. La conclusion est celle-ci. Il est nécessaire qu'il existe, une réalité, un être premier, que tout s'appelle Dieu. Alors, qu'est-ce qui est affirmé? Quel est le contenu de cette affirmation, de cette conclusion? C'est le lien entre la nécessité, il est nécessaire, proposition modale, et l'exister. C'est ça l'affirmation nette. C'est que j'affirme qu'il existe quelque chose qui implique une nécessité. Donc je mets dans l'exister la nécessité. Ce dont je n'ai aucune expérience. Vous n'avez aucune expérience d'une nécessité dans l'exister. Puisque tous les existés que vous constatez sont contingents. Les anciens encore, ils avaient l'avantage, les anciens, de croire que les étoiles étaient éternelles et donc qu'il y avait une nécessité dans la quintessence. C'était un petit repos, vous voyez. C'était un haut plateau sur lequel on pouvait se reposer métaphysiquement et dire il y a une quintessence, s'il y a une quintessence, s'il existe vraiment un ciel des étoiles fixes qui est quelque chose d'éternel, et donc il y a une nécessité dans l'exister. Il y a une nécessité dans l'exister. Les ciels des oiseaux existent et existent nécessairement sans la contingence. Ça me repose. Mais évidemment, il fallait après aller un peu plus loin. Mais c'était rien, c'était quand même quelque chose qui m'aidait. Aujourd'hui, je ne peux plus le dire. La science m'oblige de dire la quintessence, ça n'existe pas comme les anciens le croyaient. Il y a peut-être une petite quintessence difficile à voir, mais enfin, si je ne peux pas m'appuyer là-dessus. Parce que les étoiles, non, le ciel des étoiles fixes, non. Je ne peux pas. Tout est dans le devenir, donc toute l'expérience que j'ai même des galaxies les plus lointaines, c'est encore une expérience du devenir. Donc je n'ai une expérience que du devenir. Je ne saisis absolument pas la nécessité dans l'exister. Alors, vous voyez le raisonnement. Je le reprends, je vous pose la question. Et je vous demanderai de le résoudre, parce que je ne le conclurai pas aujourd'hui. Je désire que vous le découvriez. Ça, c'est absolument nécessaire. Si vous ne découvrez pas ça, vous restez dans le positif. Parce que c'est la grosse objection. Et on le sent bien. On sent bien que c'est une objection, que ça ne va pas. Il s'agit d'expliquer. l'exister repose sur le jugement d'existence. La nécessité repose sur le principe propre. Mais dans la conclusion, qu'est-ce que je fais? Je fais ce petit cocktail tout à fait particulier, qui est unique, c'est que je mets la nécessaire dans l'excès. Et je dis, il est nécessaire qu'il existe une réalité qui est au-dessus de ça. Alors, j'ai bien un critère de vérité pour l'exister, mais ce critère de vérité pour l'exister ne porte pas, puisque cet exister ne peut pas être la mesure de l'exister premier. Possible. L'exister des réalités contingentes ne peut pas être la mesure de l'exister nécessaire. C'est la mesure proche, c'est la créature qui devient mesure de tout. Non, on ne peut pas dire ça. Donc l'exister des réalités contingentes, que je constate, ne peut pas être la mesure de l'exister d'être réel. Et la proposition, le principe propre, implique bien quelque chose de nécessaire, mais ce nécessaire est saisi au niveau du principe, il n'est pas saisi au niveau de l'exister. Le principe a bien un lien avec l'exister, mais un lien, il ne s'est pas abstrait de l'exister. Il a un lien. Ça, c'est très important. Il a un lien avec l'exister. Mais il n'est pas l'exister en acte. Il n'a pas la modalité de l'exister. Donc, le nécessaire que j'ai saisi, je l'ai saisi à travers les principes propres, et voilà que je le transpose dans l'essai. Je dis, il est nécessaire qu'il existe un être premier dont il est nécessaire qu'il existe un être premier que nous appelons Dieu. Alors, quel est le critère de vérité de cette affirmation? Dire que c'est les conclusions, dire que ce sont les prémices, comme dans les conclusions habituelles, ça ne va pas. Alors, qu'est-ce que vous pouvez mettre comme critère de vérité? Vous ne pouvez pas dire que c'est la réalité puisque vous ne l'expérimentez pas. Si je pouvais expérimenter Dieu, vous voyez, c'est pour ça qu'ordinairement dire, mais oui, vous dites ça parce que vous avez la foi. La foi vous dit que Dieu existe. Votre conclusion confirme, ah très bien, ça colle. Et donc en ce moment-là, vous diriez que la mesure de vérité de cette affirmation, c'est la foi. Il y a extrapolation. Puisque la foi ne fait pas partie de ma métaphysique. Donc il y a extrapolation, je ne peux pas le faire. Je passe d'un domaine à l'autre, et je prends une mesure d'un autre domaine pour une mesure d'un domaine proprement philosophique. Je ne peux pas faire ça. Alors qu'est-ce que je dois faire? D'où vient la mesure de vérité? Et c'est la même chose pour l'intellect agent. C'est pour ça que l'intellect agent est si difficile à accepter. Et c'est pour ça que les deux s'éclairent. Ce sont deux propositions, deux conclusions qui sont très intéressantes au point de vue philosophique, parce qu'on voit que très bien, le positivisme porte aussi bien sur l'un que sur l'autre. Si vous rejetez Dieu, vous rejetez l'intellect agent. C'est bien évident. Vous rejetez l'intellect agent, c'est-à-dire vous rejetez cette lumière première qui est dans l'intelligence, qui illumine toutes mes activités intellectuelles et qui permet à mes activités intellectuelles de dépasser le contingent. Alors, est-ce que parmi vous, il y a quelques idées qui s'éclaircissent, des petites intuitions particulières? Critère, posez la question. Critère de vérité d'une conclusion, d'une démonstration a posteriori. Alors, faites peut-être un petit peu le partage des eaux, ça vous aidera. Le partage des eaux consiste à dire démonstration. Il y a une démonstration réelle. C'est vrai. L'une démonstration a posteriori, au plan logique, est une démonstration. Si c'est une démonstration, la conclusion dépend des prémices. Démonstration a posteriori veut dire que cette démonstration est imparfaite. Donc, le critère de vérité, la conclusion ne dépend pas des prémices de la même manière que dans une démonstration a priori. Alors, comment dépend-elle? Vous voyez bien les deux aspects. Démonstration a posteriori. Démonstration, je suis dans l'ordre de l'intelligibilité. Alors là, je peux dire que toute conclusion dépend des prémices. De toute façon, on l'affirme, tout le monde l'affirme. Vous avez tous vu ça affirmer, toute conclusion dépend des prémices. Si vous vous trompez dans les prémices, la conclusion erronera, donc sera erronée. et ça n'ira plus. Toute conclusion dépend des prémices. Si toute conclusion dépend des prémices, même la conclusion d'une démonstration a posteriori dépend des prémices. Oui, mais comment se fait-il? Cette démonstration va plus loin que ce que vous constatez. Oui. Ontologiquement, oui, pas intelligiblement. Il y a comme un essai d'induction. Dans l'induction, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons vu que le critère, vous avez raison, parce que c'est par là qu'on va y arriver. Le critère de du principe ne peut pas être la réalité telle que je la constate. Le critère du principe, c'est le principe lui-même. Le principe, parce qu'il est principe, possède en lui-même son propre critère. Mais je peux revenir sur l'induction qui m'aide. Et l'induction m'aide au point de vue intelligibilité, pas au point de vue contenu. Alors ici, il y a quelque chose de semblable. Du côté intelligibilité, c'est très vrai que la conclusion dépend des prémices. Et c'est ça qui est important à souligner, c'est pour ça que vous mettez les deux en parallèle, c'est que dans le principe, j'ai quelque chose de nécessaire, dans la constatation du fait, je suis en phase de l'exister. Donc il y a l'exister et la nécessité. Or, l'exister comme tel n'implique aucune limite. Et la nécessité comme telle n'implique aucune limite. Donc, on peut les joindre. Il n'y a aucune contradiction à mettre une nécessité dans l'exister. Si je parle d'un jugement d'existence, si je pars d'un principe propre, aucune raison. Logiquement, au point de vue, plus qu'au point de vue logique, au point de vue critique, au point de vue de l'intelligibilité, aucune. Donc je peux voir là qu'il y a une continuité. Il y a une certaine continuité dans la démonstration, c'est pour ça qu'il y a vraiment démonstration et que la conclusion dépend bien des deux principes. Mais au point de vue contenu métaphysique, le contenu métaphysique de ma conclusion va plus loin que la prémisse. Exactement comme le contenu métaphysique d'un principe propre va plus loin que mes expériences. Et le contenu intelligible du principe propre va plus loin que l'expérience. C'est pour ça que la découverte, comprenez bien, la découverte par l'induction d'un principe propre, découverte du principe propre par l'induction est une découverte qui, dans l'ordre de l'intelligibilité, me fait faire un pas plus grand que l'affirmation d'existence de l'être. On semble absolument monstrueux, mais c'est pas comme ça. Au niveau de l'intelligibilité, comprenez bien, pas au niveau métaphysique, c'est la même. Je reprends pour que vous voyez bien. Est-ce que c'est par là qu'on va pouvoir trouver le critère de vérité? C'est difficile, parce qu'on ne traite jamais ces questions-là. On voit l'épreuve de l'existence de Dieu du côté métaphysique, c'est déjà difficile. Et alors, après, on n'en fait pas la critique. Alors, je crois qu'en face de Kant, c'est très important d'en faire la critique. Parce qu'au fond, Kant n'a pas saisi du tout ce que c'était que la conclusion d'une démonstration a posteriori. Kant n'a vu que la conclusion d'une démonstration a priori. L'ontologie, c'est tout. Il n'a absolument pas vu la démonstration a posteriori. Alors c'est justement une démonstration a posteriori. Et donc il s'agit de comprendre, pour faire sauter la critique de Kant, et pouvoir répondre au niveau proprement critique. Alors, ça ne se voit pas. Moi, du moins, je ne l'ai pas vu. Si vous trouvez un article là-dessus, ça m'intéresserait. Il y a un vrai, au seul soir, dans le temps, il y avait un père dominicain croate, qui vit toujours, du reste, en Croatie, qui est toujours là-bas, et qui a essayé de faire une démonstration là-dessus. Je me souviens, il a pataugé comme un pauvre malheureux. C'était difficile. Et j'ai essayé de l'aider, mais j'avoue que je voyais difficilement. C'est pas commode du tout, c'est pour ça que j'aime y revenir. Parce qu'il faut toujours revenir sur les problèmes qui sont restés comme ça, incoatifs, sur lesquels on voit, c'est pas commode du tout, voir exactement quel est le critère de vérité d'une démonstration a posteriori. C'est difficile. Alors, il faut au moins se poser la question, vous voyez. Si vous posez la question maintenant, Dans 20 ans, si vous continuez de réfléchir, vous aurez la solution. C'est comme ça la vie de l'intelligence. On passe par des souterrains multiples, et c'est le propre de l'intelligence, parce que l'intelligence a toujours son laboratoire avec lui. Donc on n'a pas besoin d'avoir des fichiers. Il suffit de se poser une fois une question. Mais vraiment, puis au bout d'un certain temps, il y a des tas de choses. Tout d'un coup. C'est ça l'intellect agent. Vous voyez ? L'intellect agent nous donne la lumière. Au début, c'est difficile, c'est pas commode du tout. Je comprends très bien que pour vous, c'est très ténébreux. Mais je crois que vous pouvez au moins saisir la difficulté. Parce que les difficultés, c'est toujours du côté de notre conditionnement. Alors, une difficulté peut toujours se comprendre. Les apories sont du côté de notre conditionnement humain. Et donc, les difficultés peuvent toujours se comprendre. On comprend davantage les difficultés, c'est plus facile à comprendre les difficultés que de comprendre la solution. C'est pour ça que d'habitude, on retient davantage les difficultés. C'est ce qu'on dit que les cours de philosophie montrant les difficultés font des gens qui, au bout d'un certain temps, s'ils ne vont pas jusqu'au bout, alors dégringolent en restant dans des difficultés, deviennent agnostiques. Parce qu'ils ont fait de la philosophie. La philosophie conduit un certain agnosticisme, c'est très vrai, parce qu'elle voit les difficultés. Et qu'on comprend les difficultés. En faisant cette chose-là, je monte les difficultés de ce que une démonstration a posteriori nous donne. Une démonstration a posteriori est-elle possible? Est-elle possible? Alors, on me met sur la piste, et on a raison, parce que c'est ça la piste. C'est de mettre le parallélisme avec l'induction. C'est le point de vue du parallélisme avec l'induction qui monte tout de suite la piste. Alors, je dis ceci, que dans l'induction, je pars de l'expérience pour découvrir le principe propre. Le principe propre, nous l'avons vu, a en lui-même sa propre mesure d'intelligibilité. Le principe propre est évident par lui-même. Il est évident par lui-même. Dès que je saisis un principe propre, je le saisis ou je ne le saisis pas, le principe propre. Je peux le saisir avec du nuage. Hein. Ça, c'est... Il y a quelque chose. Hein. Il y a du gibier par là. C'est petit matin, il y a encore pas mal de brouillard. Le brouillard nordique. Il y a du brouillard, il y a quelque chose. Mais je vois quelque chose, il y a quand même quelque chose. Alors, je saisis, il y a quelque chose, ce principe propre. Le principe propre, il est évident. Et donc, il a en lui-même son propre... Sa propre mesure, son propre critère de vérité. Ça, c'est sûr. Je ne peux pas chercher en dehors d'un principe propre le critère de vérité. Parce que l'intelligibilité qui est contenue en acte d'un principe est plus que celle que je saisis dans l'expérience. Même si j'accumule l'expérience, ça n'a pas d'importance. L'intelligibilité saisie dans le principe est plus. C'est une intelligibilité plus profonde. Et ce critère de vérité ne peut pas être la réalité, parce que la réalité elle-même existe d'une manière contingente. Or, le principe propre est nécessaire. Et donc, il y a quelque chose que je ne saisis que par l'intelligence. L'intelligence seule saisit ce principe propre, et en le saisissant, elle sait que ce principe propre possède en lui-même son critère de vérité. C'est toujours ce qui fait les limites de la critique. Hein. Vous voyez bien, les limites de la critique, puisque... Les principes propres, au plan métaphysique, au plan philosophie première, toute ma philosophie première repose sur les principes propres. Or, ces principes propres, je ne peux pas les justifier. Je ne peux pas les critiquer. Ils sont au-delà de la critique. Ils ont en eux-mêmes leurs propres critères de vérité, si je les saisis. Que vous ne pouvez pas mettre une super intelligence. C'est l'intelligence qui a elle-même sa propre critique. C'est ça l'autonomie. Hein. C'est ça l'autonomie, c'est ça la véritable autonomie. On vous dit, ah mais vous ne pouvez pas le critiquer, mais non, je n'ai pas besoin, je le comprends. Je continue mon chemin. Ah moi je ne vous suis pas parce que je n'ai pas le critère de... Moi je n'accepte que ce qui est justifiable. Très bien, vous ne pouvez pas le comprendre, vous ne comprenez pas. Au fond, c'est ça le propre de la métaphysique. C'est ça le propre de la philosophie. C'est ça le propre de la vie humaine. En définitive, tout homme possède une autonomie telle qu'un jour il doit poser un acte et il est seul. S'il cherche toujours le critère des autres et l'approbation des autres, il sera toujours relatif à un autre, il n'acquérera jamais son autonomie. Donc il ne sera jamais une personne. Spiritualité de planche. C'est ça. On est relatif aux autres. Tandis que l'intelligence, en saisissant le principe propre, saisit sa propre autonomie. Alors évidemment, il y a toujours une possibilité de se tromper. C'est pour cela que je reviendrai toujours à mon expérience. Je reviendrai toujours parce qu'il y a une justification indirecte et pas directe. Je suis donc passé du visible à l'invisible. Je suis donc passé d'une intelligibilité limitée à une intelligibilité qui, d'une certaine manière, n'implique pas de limite. Un principe propre, nécessaire, en métaphysique, hein, en philosophie première, n'implique pas de limite. Quand je saisis la substance, quand je saisis l'acte, ce principe n'a pas de limite. L'être en acte n'a pas de limite. Ce principe propre n'a pas de limite. Quand je dis tout ce qui est en puissance dépend de ce qui est en acte. Ça n'a pas de limite. Ça peut s'appliquer selon de multiples manières. Donc, je suis passé du fini à quelque chose d'infini. Quand je passe dans une démonstration posteriori, quand je passe de l'expérience illuminée par le principe à la conclusion, il est nécessaire qu'il existe un être premier. Je dis qu'au point de vue intelligibilité, comprenez bien, au point de vue intelligibilité, le dépassement de la conclusion par rapport aux prémices est moindre que le dépassement du principe propre relativement à l'expérience. Et vous comprenez tout de suite pourquoi. Parce que je n'ai pas l'intelligence de cette habitude, de cet être premier. Mon intelligence est tout entière du côté « il est nécessaire qu'il existe ». Or, cette intelligibilité « il est nécessaire qu'il existe », elle s'appuie fortement sur le jugement d'existence et sur le principe propre. Et donc, d'une certaine manière, le dépassement est moins. Vous vous souvenez, je vous ai dit que c'est par l'induction qu'on dépasse le positivisme. C'est très vrai, et je vous ai dit, c'est par la démonstration postériori qu'on dépasse le positivisme. Les deux grands dépassements du positivisme. Et le premier dépassement, c'est l'induction. Un positiviste n'accepte que des lois. C'est le propre de l'esprit positiviste. Il n'accepte que des lois. Et donc il accepte un nécessaire relatif. Parce que toute loi peut être révisée par une autre loi. C'est le propre de la loi. Et donc, toute loi implique quelque chose de relatif. Et la loi est directement en continuité avec ce que j'expérimente. Tandis que le principe, lui, n'est jamais périmé par un autre principe. Je peux le saisir plus ou moins profondément, je peux aller plus ou moins profondément dans la saisie du principe, mais le principe, comme lui-même, a quelque chose de nécessaire. Il se tient par lui-même. La loi ne se tient jamais par elle-même. Elle se tient en fonction de ce que j'ai expérimenté et d'hypothèse. C'est ça la très grande différence entre la loi et le point de vue du principe propre. Bien saisir la différence. L'esprit positiviste maintient la loi, mais ne découvre jamais le principe propre. Donc, il y a un dépassement plus grand. Donc, je peux, mais c'est quand même intéressant, parce que c'est les deux grands dépassements de l'intelligence. L'un du côté de l'intelligibilité, l'autre du côté métaphysique, du côté de l'être. Du côté de l'être, le dépassement dans la démonstration a posteriori va beaucoup plus loin, puisque ce dépassement atteint un absolu dans l'ordre de l'esprit. Tandis qu'ici, j'atteins un absolu dans l'ordre de l'intelligibilité. Donc vous voyez que le dépassement va beaucoup plus loin dans la démonstration a posteriori que dans l'induction. Le dépassement est beaucoup plus fort, il va jusqu'au bout. Alors, je reviens toujours. Je reviens à la question posée. Je dis donc, l'induction me permet de comprendre que le principe a sa propre mesure en lui-même. Alors, est-ce que je peux dire la même chose ici? L'affirmation, il est nécessaire qu'il existe un être premier, que nous appelons Dieu, est-ce que cette affirmation, qui dépasse les prémices, du côté du contenu métaphysique, pas du côté intelligibilité,
d'intelligibilité, je vois qu'il y a un appui direct. Mais du côté métaphysique, il y a quelque chose de tout à fait nouveau. Puisque je dépasse tout ce que je constate pour affirmer une réalité qui est première, qui est absolue dans son existence. Et cette réalité première, je verrai quel est le créateur. Et donc je verrai qu'elle est source de toutes les autres réalités, et qu'étant source de toutes les autres réalités, elle est antérieure à toutes les autres réalités. Donc cette affirmation est une affirmation qui, dans l'ordre de l'existence, est unique, qui dépasse infiniment la découverte des principes, dans l'ordre de l'existence, dans l'ordre ontologique, dans l'ordre métaphysique. C'est cela qui donne à mon intelligence, si vous voulez, toute sa dimension d'intelligence, capable d'affirmer l'existence de l'être propre. Et capable de reconnaître qu'il est nécessaire de l'affirmer. Alors, est-ce que cette affirmation possède en elle-même son propre critère de vérité? Je pose la question. Le principe propre possède en lui-même son propre critère de vérité. Mais est-ce que cette affirmation, il est nécessaire qu'il existe un être premier, possède en elle-même son propre critère de vérité? Est-ce que c'est une proposition évidente? Je vous mets sur la piste. Est-ce que c'est une proposition évidente? Toute proposition qui possède en elle-même son critère de vérité est une proposition évidente. Or, cette affirmation, il est nécessaire qu'il existe un être premier, n'est pas une proposition évidente. Puisqu'elle est une démonstration, puisqu'elle est une conclusion. Si elle était évidente, elle ne serait pas une conclusion. Elle est une conclusion. Donc, elle dépend des principes antérieurs, du côté de son intelligibilité. Donc, du côté de son intelligibilité, c'est une véritable conclusion, dont la vérité repose bien sur les propositions antérieures. Mais le contenu de cette conclusion possède en lui-même son critère de vérité. Parce que le contenu de cette conclusion ne peut être relatif à rien d'autre. C'est bien évident. Il peut être relatif à rien d'autre. Autrement, il faudrait mettre nécessairement l'existence de l'être premier relatif à un autre être. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, du côté de l'intelligibilité. C'est la différence que j'ai faite. C'est pour ça que je fais la distinction entre l'aspect de l'intelligibilité et l'aspect du contenu métaphysique. Or, au niveau vérité, il y a deux aspects qu'on peut distinguer. On peut distinguer la vérité du contenu métaphysique et la vérité du contenu d'intelligibilité. C'est inséparable, mais on peut les distinguer. Or, c'est le propre d'une démonstration a posteriori, parce qu'elle dépasse le contenu métaphysique de ces prémices, de devoir faire la distinction entre les deux. Vous voyez, vous me suivez, là, j'espère. Au niveau de l'intelligibilité, la conclusion reste une conclusion. Donc, ce n'est pas évident. Donc, ça dépend des prémices. Mais au point de vue du contenu, c'est ça qui est très curieux, il y a vraiment quelque chose de très unique dans cette affirmation. Au point de vue du contenu, je sais très bien ce que j'affirme quand je dis « il est nécessaire qu'il existe un être premier ». Donc, je sais très bien la valeur de ce contenu métaphysique. C'est d'affirmer qu'il existe un être qui n'est relatif à aucun autre. Qu'il existe un acte qui soit un acte pur, que tout s'appelle Dieu. Donc je sais très bien qu'au point de vue contenu métaphysique, cette affirmation a quelque chose d'unique. Et que cette affirmation dans son contenu ne peut se référer à rien d'autre. Et j'affirme qu'il est nécessaire. Et donc la vérité de cette conclusion possède en elle-même le critère de sa vérité. Vous voyez le raisonnement. C'est un peu complexe, je suis d'accord,
Mais je crois qu'il faut le faire. Et vous voyez que c'est intéressant parce que ça montre que si vous n'avez pas fait la distinction entre le domaine de l'intelligibilité et le domaine de la réalité existante, ce que j'avais dit au niveau du jugement d'existence, grâce au jugement d'existence, je fais la distinction entre le domaine de l'intelligibilité que je suis capable de saisir et le domaine de la réalité que j'affirme. Dans tout jugement d'existence, c'est ce qui se passe. La réalité que j'affirme exister mesure l'intelligibilité que j'ai de cette réalité. Et donc, la réalité que j'affirme exister va plus loin et première comparativement à l'intelligibilité que j'en ai. Donc, j'ai fait cette distinction dès le jugement d'existence. Ici, je retrouve la même distinction, c'est pas étonnant, je suis devant un jugement d'existence. Donc, je retrouve la même distinction. Du côté de l'intelligibilité, toute l'intelligibilité que j'ai dans cette affirmation, il est nécessaire qu'il existe un être premier, toute l'intelligibilité repose sur les prémices. Ça ne vient pas directement de Dieu, autrement j'aurais l'expérience de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui illumine mon intelligence à ce moment-là pour me donner une nouvelle intelligibilité qui me permet d'affirmer qu'il existe. Ce serait le jugement de la foi. Dans la foi, c'est ce qui se passe. Dans la foi, quand j'affirme Dieu existe, c'est un acte de foi. L'intelligibilité vient directement de l'autorité de Dieu. Mais dans la conclusion, c'est une conclusion. Parce que c'est une conclusion, l'intelligibilité de cette conclusion provient des prémices. Mais cette intelligibilité mesurée par les prémices est elle-même dépendante de la réalité affirmée. Et quel est le critère de vérité de la réalité affirmée? C'est la réalité elle-même affirmée. Vous voyez? Que je ne saisis pas directement. Alors vous voyez, on dira que c'est une vérité négative. Personne ne peut me dire que cette affirmation n'est pas vraie. Personne ne peut me dire. Donc, c'est négatif. C'est pas positif. Puisque, en l'affirmant, je sais que je ne l'atteins pas immédiatement. Mais je sais que c'est la réalité première. Alors, que je ne l'atteins pas immédiatement, si je l'atteignais immédiatement, je n'aurais l'expérience. Je l'atteins immédiatement. Mais je l'affirme. Donc, je sais que cette réalité première ne peut être mesurée par aucune autre. Donc, elle a en elle-même son critère de vérité, pas pour moi. Parce que son critère de vérité, je ne l'atteins que par l'intermédiaire des prémices. Mais je vois que rien ne peut aller contre cette affirmation. Et c'est très curieux comme situation, je crois qu'on doit dire ça. Si vous trouvez une autre solution, vous me le direz. Parce que ça m'intéresse beaucoup. Même très important de saisir ça. C'est très intéressant de saisir que nous sommes en face d'une vérité d'un caractère tout à fait particulier. Une vérité dont l'intelligibilité peut être poussée jusqu'au bout, parce qu'il y a les prémices, mais dont le critère... Parce que une vérité, ce n'est pas seulement l'intelligibilité. Hein. Une vérité, quand il s'agit d'un jugement d'existence, c'est la réalité elle-même. Or, cette réalité, je l'affirme, existait. Mais cette réalité, je ne l'atteins pas directement. Donc, ce n'est pas cette réalité qui peut être pour moi-même le critère de vérité. Puisque je ne l'atteins pas directement. Et cependant, elle est présente, c'est le contenu même de mon affirmation. Et ce contenu même de mon affirmation, je ne peux pas le rejeter. Et je dis que personne ne peut le rejeter. Qu'aucune critique ne peut le rejeter. Donc, je suis en présence, si vous voulez, au point de vue de l'intelligence, de ce qu'il y a déjà à l'état beaucoup plus faible dans le jugement d'existence, où je reconnais que la réalité mesure ce que j'affirme. Mais cette réalité, je l'ai quand même saisie à travers le jugement d'existence. Ici, j'affirme que c'est cette première réalité qui mesure ma conclusion, ontologiquement parlant. mais qui ne la mesure pas au point de vue intelligible. Et je peux faire ça, c'est pas du tout impossible, parce que j'ai distingué le domaine de l'intelligibilité et le domaine de l'existence. Mais si je ne distingue plus le domaine de l'intelligibilité et le domaine de l'intelligence, j'aboutis nécessairement à dire qu'une conclusion telle n'a aucune valeur. Et il faut rendre raison de ceux qui rejettent une telle conclusion. C'est parce qu'ils n'ont pas distingué le domaine de l'intelligibilité et le domaine de la réalité. Autrement dit, ils ne se sont pas arrêtés sur le jugement d'existence. S'ils s'étaient arrêtés sur le jugement d'existence, ils auraient compris qu'on pouvait faire cette distinction et qu'en dernier lieu, on devait la faire.
Est-ce que c'est pas ça qui fait, en fait, justifie la voie d'immanence ? Quand on va chercher les manières d'exister. Oui. Est-ce que c'est pas ça qui justifie la voie d'éminence ?
Ça justifie la voie d'éminence parce que justement, vous pouvez être des questions, vous pouvez donner quelque chose.
C'est ça, alors la voie d'éminence, c'est la manière de faire des. Vous avez vu, ça fait que.
La voie d'éminence est trop bête.
Je crois que.